Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur RTVFM, vous écoutez l'émission Comme tout le monde, l'émission par les jeunes, pour les jeunes, mais pas que. Aujourd'hui, je suis avec Margot, ma co-animatrice.
Bonjour.
Comment ça va, Margot?
Ça va très bien.
Quelle journée?
Oui.
Ça va?
Ça va.
Et bien, pour cet épisode, on va parler d'un sujet qu'on a déjà parlé. Vous avez l'habitude d'entendre parler ici. C'est l'écologie, mais on va l'aborder différemment puisqu'on va aborder le sujet comment on fait pour ne pas polluer. Est-ce que l'homme est condamné à polluer? Parce que on se rend compte que au final, peut-être les alternatives sont pas aussi écolo qu'elles puissent paraître. Donc, par exemple, Margot, quelles sont tes alternatives, toi? Comment tu fais pour moins polluer dans ton quotidien? Comment tu fais?
Alors, moi déjà, ça fait quelques temps que j'ai adopté un mode de vie qui est plutôt voué à l'écologie, entre guillemets. Donc, je mange plus de viande, j'ai réduit ma consommation de produits laitiers. Je me déplace beaucoup en transport en commun, donc j'use presque pas la voiture.
Donc on pense souvent au recyclage, à la poubelle jaune, à la fameuse poubelle jaune, on pense au zéro déchet ou alors à l'arrêt de la consommation de plastique. Mm-hmm. Mais est-ce que ces solutions sont-elles vraiment respectueuses de l'environnement? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Ce qu'on sait déjà, c'est que la planète elle est en danger et qu'il nous faut trouver des solutions. Cependant, ces solutions, elles sont compliquées à mettre en place parce qu'elles veulent enlever une contrainte pour la planète, mais pas pour nous. Je vais prendre un exemple tout simple qui a fait rire Margot tout à l'heure, la fourchette. Elles servent à saisir les aliments, donc jusque-là tout va bien. C'est sans salir les mains, c'est pratique, c'est cool, la fourchette. Et donc je me dis, je vais chercher sur internet, sur Ecosia bien sûr, le navigateur qui plante des arbres, fourchette. Je vais sur la page Wikipédia. C'est l'utilité principale de la fourchette, de saisir les aliments sans salir les mains. Mais où je veux en venir avec tout cela? Eh bien, en fait, c'est que je voulais parler des fourchettes qui sont dans les plats cuisinés. Vous savez, celles qu'on retrouve dans les boîtes de pâtes, qui sont souvent entre l'étui en plastique et l'étui en carton qui emballent les pâtes, celles qui sont préparées avec une sauce qui ne sont pas très bonnes. Elle est certainement là pour un but de facilité, pour les gens qui mangent à la va-vite, qui travaillent et qui vont acheter un petit à manger à la pause entre midi et deux. Mais pourquoi mettre une fourchette en plastique alors que tout le monde a des fourchettes chez eux? Pas des fourchettes en plastique, mais des fourchettes normales chez eux. T'as une fourchette, toi, Margot, chez toi?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un peu les problèmes que... notre mode de société actuel et le fait que nous, les Européens, on cherche toujours plus de confort. Et donc là, par exemple, c'est une question de practicité, en fait. C'est plus facile d'avoir une fourchette qui est déjà intégrée dans le plat qu'on va acheter pour manger le midi, au lieu de faire l'effort d'amener sa fourchette, soit en bambou, soit une fourchette en fer qu'on a chez nous, avec sa gourde, etc. Donc c'est plus facile, bien sûr, d'acheter ses couverts en plastique avec sa petite bouteille d'eau en plastique et qui, on le sait, pollue beaucoup par sa production, le plastique, et n'est pas recyclable. Et même pour le plastique qui serait marqué recyclable, on sait que plus de 81% des déchets ne sont pas recyclés, malgré les efforts que les pays sont censés faire par rapport au recyclage. On sait qu'il y a une grande, grande, grande majorité des produits qui auraient la possibilité d'être recyclables qui ne le sont pas.
Voilà, donc la solution, ça serait pour encore un tout petit peu diminuer la production de plastique, ça serait d'interdire ces fourchettes. Ce qui a été fait ou qui va être fait bientôt, je pense, j'avais entendu ça quelque part.
Alors oui, on a le plastique à usage unique qui va être interdit à partir de 2040. Donc 2040, c'est un peu ironique face à la crise environnementale et écologique qui est en train de se proférer à l'horizon et dont on entend tous parler. Donc c'est vrai que c'est un peu ironique de se dire que 2040, c'est dans 20 ans, quoi. Donc dans 20 ans, on sera tout juste au moyen de « Ok, on va arrêter le plastique à usage unique. »
Et nous, on aura presque 40 ans.
Exactement.
Voilà, et donc le problème, c'est que les industries, pour remplacer cette fourchette en plastique et pour satisfaire les besoins de l'humain, on peut dire ça comme ça, eh bien, il va mettre des fourchettes, mais en bambou. Sauf que le bambou, ça, pour moi, ça me paraît logique. C'est de l'arbre. Enfin, c'est de l'arbre. Voilà, je me suis compris, c'est du bois. Du coup, ils vont industrialiser la production de bambou pour produire ces fourchettes, alors que le bambou, il absorbe une quantité de CO2 5 fois plus que les arbres.
C'est ça.
Du coup, en même temps, ça absorbe, mais en même temps, ça coupe. Enfin, c'est un peu contradictoire. Et à l'heure où l'Amazonie et l'Australie brûlent, je pense que c'est une moyenne bonne idée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire un petit point, Margot, sur les incendies en Amazonie et en Australie ?
Alors oui, actuellement, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. On a eu l'Amazonie qui a des feux, des millions de départs de feux qui ont été enregistrés depuis cet été en Amazonie. Et donc là, actuellement, on parle beaucoup de l'Australie qui est aussi touchée par ces feux. Ça a été plutôt médiatisé en ce moment. Donc dans les chiffres un peu choc, on a 24 personnes qui ont été tuées aujourd'hui, le jour où on enregistre. On a 6 millions d'hectares de végétation qui sont brûlés à cause de ces feux et du fait qu'ils se propagent de plus en plus et que c'est vraiment très compliqué pour les pompiers en Australie, là-bas, de les arrêter avec la chaleur ambiante qui règne. On a près de 50 degrés Celsius enregistrés à Sydney et c'est vraiment énorme. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas assez compte, mais déjà, nous, cet été, en France... nous, les Européens, en France, on a eu très très chaud et il y a certaines personnes qui pensaient qu'ils n'allaient pas supporter la chaleur, alors que le maximum qui a été enregistré cet été en France, c'était 45 degrés. Là, on est à 50, donc c'est vraiment vraiment beaucoup.
Et en échange, le Premier ministre australien ne fait rien, il part en vacances et la ville de Sydney a décidé de tirer son feu d'artifice. Pour la nouvelle année.
Exactement.
Alors que le pays est en train de brûler. Eh bien, on va faire une petite pause, Margot. Tout de suite, c'est Candid Crush de Therapy Taxi. À tout de suite sur RTVFM.
Je suis si sèche d'habitude, mon chéri. Tu m'as braqué, je crois, ce soir-là. Et j'ai trouvé la flemme dans tes pas. Et je suis prisonnière de ta peau. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Quand tu m'allumes, on devient insouciant. Sur le bitume, on sourit en dansant. Ta gueule d'ange, ange coiffée de lueur. Tout d'un coup, ma candeur de femme sans émoi. Je fuis les balles, balles quand tu pousses à la fosse. Mais tout s'emballe, balle si je pars à une autre. Et je suis au-dessus des putes que tu croises. Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Quand tu m'allumes, on devient insouciant. Sur le bitume, on sourit en dansant.
Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance. Sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue c'est elle qui s'avance
sur moi.
Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue c'est elle qui s'avance.
Je sens les vagues vagues qui me montent à la tête. Et je dis vague vague dans la fumée, dans la fête. Je me suis offerte au luxe de tes mains. Je me vois trembler sans amour demain. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire.
C'était Candide Crush de Thérapie Taxi sur RTVFM, vous écoutez l'émission Comme Tout Le Monde. Et aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est « Est-ce que l'homme est condamné à polluer ?» Et je suis avec Margot, toujours, Margot qui est présente.
Toujours là.
Toujours là. Donc avant la petite pause musicale, on parlait de l'Amazonie et de l'Australie qui sont en train de brûler, parce qu'on parlait de la production de bambou qui pourrait être lancé parce que maintenant c'est une des solutions pour remplacer le plastique à usage unique dans les industries. Donc ils vont déforester pour industrialiser le bambou comme ils avaient fait pour l'huile de palme. L'huile de palme qui a un grave problème écologique aujourd'hui. Les industriels croient que c'est une solution écologique, sachant que le bambou à quantité d'arbres équivalent, il absorbe 5 fois plus de CO2 que les autres arbres. Donc vous voyez, on ne peut pas sauver la planète si on ne touche pas à notre confort. Un autre exemple, maintenant, qui paraît simple, mais qui est à la fois extrêmement complexe, la voiture. On veut arrêter la production de voitures thermiques au profit des voitures électriques. Sauf que la production d'une voiture électrique consomme 120 000 millijoules, bon c'est un peu technique, je comprends pas trop, mais dans les chiffres c'est parlant, contre 70 000 pour une voiture thermique. Il faudrait donc parcourir environ 40 000 km pour compenser la production de CO2 émise lors de la fabrication de la voiture. Donc c'est un peu... Et pareil pour les batteries, pierres utilisées, enfin les,
oui, en fait,
les matériaux utilisés sont extraits dans des mines. Donc c'est un peu polluer ailleurs pour aller mieux ici, pour aller mieux chez nous en fait.
Oui, exactement. En fait, on a les batteries de voitures, par exemple, des voitures électriques, qui sont faites à base de métaux rares, ou qui utilisent des métaux rares en tout cas, donc du lithium. Nos batteries de téléphone, par exemple, sont faites avec du cobalt, etc. Et donc, ces métaux rares, déjà, viennent de très très loin. En plus de ça, beaucoup, par exemple, pour nos téléphones portables, beaucoup des métaux qui sont dans vos téléphones portables ont été récoltés par des personnes qui touchent un salaire très 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 bas, parfois des enfants qui travaillent dans des conditions de travail qui sont vraiment atroces et donc qui en plus polluent énormément parce qu'on utilise des ressources qui ne sont pas inépuisables en fait. Et donc ces ressources-là, on ne peut pas les utiliser aussi facilement que le pétrole, mais elle pollue autant. Et en fait, à long terme, on peut dire qu'à long terme, la batterie de voiture, par exemple, du coup, va durer plus longtemps, va moins consommer, en gros. Sauf qu'il faudrait l'utiliser plus de 15 ans, concrètement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous une voiture qui nous dure 15 ans.
Surtout que les données que je vous avais données tout à l'heure, elles prennent pas en compte le fait que l'électricité utilisée pour charger la voiture soit de l'électricité verte ou si elle vient du nucléaire ou même du charbon. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué de trouver des alternatives. Là où c'est plus compliqué qu'une simple fourchette, c'est que l'humain est trop avancé pour se passer d'un transport. Mais c'est le cas depuis longtemps, sauf qu'à l'époque, les gens se déplaçaient en chevaux. Sauf que nous, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas se déplacer en chevaux, puisque nous sommes 7 milliards sur Terre, et que ce serait un peu de l'exploitation animale. Vous imaginez un cheval par personne, ça ferait beaucoup de chevaux. Bon, c'est un peu moyen.
Oui, quand même.
Du coup, comment faire ? Utiliser les transports en commun au lieu de la voiture, mais toujours polluer, même si c'est réduit, on pollue toujours. Utiliser le vélo, faites Paris-Marseille en vélo. En plus d'avoir de bons mollets, il faut du matériel pour changer de roue en cas de crevaison ou tout ça, tout ça. Et en plus, vous ne pouvez pas transporter grand-chose. Donc, comment faire pour se déplacer sans, en moins polluant ? C'est un peu compliqué.
Alors, déjà, il faut savoir que dans chaque pays, la première industrie la plus polluante, elle n'est pas la même. Et donc, que ce n'est pas forcément les transports en voiture, par exemple, qui polluent le plus. Donc là, typiquement, en France, on peut dire que, en fait, c'est les vols intérieurs, donc les vols de moins de 3 heures, il me semble, qui sont utilisés par beaucoup de personnes qui travaillent dans le commerce, par exemple, qui doivent faire des Bordeaux-Paris ou des Marseille-Paris 3 fois par semaine. Et donc, c'est ces vols-là qui sont beaucoup, beaucoup utilisés pour aussi notre confort, parce que les Européens, on préfère concrètement
aller plus vite que...
Aller plus vite, et c'est plus facile parce que l'avion, c'est moins cher en plus. Donc c'est plus facile de faire 1h20 de vol que de faire 3 heures de train alors que le train pollue moins. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on se pose actuellement, parce que du coup, on ne peut pas non plus dire que notre État nous aide à moins polluer, en fait. Parce que quand on compare les prix des billets d'avion, par exemple, et des billets de train, on peut observer que les billets de train sont beaucoup plus chers que les billets d'avion, proportionnellement à la distance. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, OK, alors là, je vais privilégier le train, parce que même si c'est plus cher et même si c'est plus long, je préfère réduire mon impact carbone que de prendre l'avion et de polluer et d'avoir ça sur la conscience, entre guillemets. Et du coup, oui, c'est vrai que ça touche un peu à notre confort. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'en fait, si on fait ça, c'est aussi pour avoir une meilleure vie dans le futur et donc pour obtenir un futur viable à nos enfants.
Puis c'est aussi contradictoire de la part du gouvernement qui nous dit de faire des gestes écolos, de prendre les transports en commun, mais qui en même temps font que le transport aérien interne est moins cher que le train.
Oui, exactement. Voilà. Puis on peut aussi parler des campagnes où les transports en commun ne sont pas forcément très développés.
Aussi.
Donc ça a été une revendication aussi des Gilets jaunes au tout début. C'était un ras-le-bol général avec la hausse des carburants. Mais en fait, le problème avec la hausse des carburants, c'est qu'il y avait un argument comme quoi c'était censé être plus écologique, parce que du coup, on allait plus prendre les transports en commun ou plus utiliser de voitures électriques. Mais en fait, non, parce que les voitures électriques, déjà, ça a un coût. C'est un budget qui est non négligeable, c'est vraiment très cher. Et en plus de ça, c'est dire de faire payer, en fait, alors que de faire payer le peuple et les plus pauvres qui peuvent pas forcément acheter de voitures électriques pour, en fait, réduire des choses que l'État pourrait mettre en place avec, par exemple, la suppression des vols intérieurs.
Merci Margot pour cette très belle intervention. On parle du recyclage tout à l'heure. Tout de suite, c'est une pause musicale. C'est Blinding Lights de The Weeknd. À tout de suite sur RTVFM. C'était Blinding Lights de The Weeknd. Vous écoutez comme tout le monde, vous êtes sur RTVFM et je suis toujours avec Margot, ma fidèle acolyte.
Toujours là.
Toujours là. Et donc aujourd'hui, le sujet, on le rappelle, c'est est-ce que l'homme est condamné à polluer ? Et donc on parlait que justement, les alternatives ne sont pas souvent aussi écolo qu'on le pense. Donc là, avant la pause, on a parlé de la voiture électrique, des batteries, tout ça, du transport surtout. Et là, je vais vous parler du recyclage. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Parce qu'on voit que dans certains magasins, ils remplacent les sachets plastiques pour les légumes par des sachets en papier recyclable. Mais est-ce que le recyclage, ça pollue pas en soi ? Parce qu'il faut de l'énergie pour recycler, il faut de l'eau, de l'électricité... des machines qui sont fabriquées avec des matériaux souvent polluants à la fabrication. Donc dans ce cas, la solution du zéro déchet, ça me paraît être la meilleure solution, la solution la plus évidente. Ouais. Mais celle-ci est compliquée à mettre en place, Margot, n'est-ce pas ?
Alors oui, parce que ça demande en fait beaucoup d'efforts personnels. Déjà de commencer à réduire sa production de déchets. Donc ça veut dire aller au supermarché avec ses sacs en tissu. Ça veut dire aussi investir beaucoup parce que on a beaucoup de choses qui, en fait, quand on y pense, on a vraiment beaucoup de choses qui sont emballées dans du plastique. Donc que ce soit votre gel douche ou vos cotons démaquillants pour vous nettoyer le visage, en fait, c'est tout emballé avec du plastique et il y a beaucoup de choses qui sont jetables. Donc oui, c'est sûr que c'est une question de confort en fait et on est beaucoup à ne pas vouloir se priver de notre confort parce que selon beaucoup de personnes en fait, ce n'est pas à nous de faire des efforts mais c'est à l'État, ou alors ce n'est pas à nous de faire des efforts mais c'est aux autres pays parce que selon beaucoup c'est les autres pays qui polluent le plus, etc. Mais en fait on a notre part à jouer dans cette lutte écologique. Et donc, nous, en tant que seule petite personne, être humain, on peut jouer un rôle important dans cette crise écologique qui se profile. Et du coup, c'est sûr que oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, investir dans les sachets en tissu pour aller chercher nos céréales, nos fruits et légumes, investir dans des cotons réutilisables, par exemple. Beaucoup d'autres moyens dans ce genre-là. Il y a un livre qui est très bien qui s'appelle The Guide Zéro Déchet qui est sorti il y a quelques mois et qui est vraiment très, très bien pour expliquer comment passer de j'achète tout emballé à du plastique à je suis zéro déchet et ma poubelle de l'année pèse 400 grammes. Donc voilà, si on veut, on peut, et je pense que tout le monde devrait comprendre qu'en fait, on a tous notre part à jouer là-dedans.
D'ailleurs, n'hésitez pas, chers auditeurs, à commenter l'émission en podcast sur le site rtvfm.net en nous expliquant vos solutions, comment vous faites pour diminuer vos déchets tout au long de l'année. Pour moi, c'est impossible de faire zéro déchet si on fait ses courses en grande surface, parce que c'est tout le système des grandes surfaces, hein, c'est la société de consommation dans les grandes surfaces qui est comme ça, avec le packaging, tout ce qui est sur-emballage, l'emballage.
Et oui, c'est sûr que ouais, dans les grandes surfaces, notre mode de vie actuellement, notre société qui est basée sur quand même une société capitaliste, donc de productivisme et de surproductivisme même, donc le fait de produire toujours plus et de consommer toujours plus, bah, ça joue aussi un rôle là-dedans, et dans la crise environnementale et écologique, et dans le zéro déchet, parce que bah, maintenant, si on va en grande surface, on a vraiment beaucoup de mal à trouver des choses qui sont ni emballées dans du papier plastique, ni emballées dans des sacs plastiques, ni emballées dans du carton même, qui n'est pas forcément recyclable. Donc c'est vrai que oui, en grande surface, c'est très compliqué de devenir zéro déchet. C'est pour ça qu'il faut privilégier tout ce qui est les biocoops, les magasins bio, les magasins en vrac aussi.
Parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de quand ils achètent quelque chose, tout simplement une boîte de thé, une boîte de sachets de thé en grande surface, c'est impressionnant la quantité de plastique et de la quantité d'emballage qu'il y a juste pour des sachets de thé. Parce que par exemple, on prend une boîte de thé, donc on a autour de la boîte en carton qui emballe les sachets de thé du plastique. Donc on enlève le plastique, on retrouve enfin les sachets de thé, sauf que non, les sachets de thé sont emballés eux aussi dans du plastique. Et c'est ça pour plein de choses dans les grandes surfaces, comme les biscuits. Les biscuits, n'en parlons pas, il y a une barquette en plastique pour mettre le plastique avec les biscuits dedans, et le carton est emballé avec du plastique. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc c'est bien une question de confort, parce que le plastique, il est là... Bon, pour le thé, je pense pas, mais le plastique, il est là surtout pour les petits biscuits, pour faciliter le transport, pour faciliter le transport dans les sacs à dos, ou le transport tout simplement de l'usine à la grande surface. Donc c'est vraiment cette idée de confort, et un truc qui vient de la société, qui est de polluer naturellement. Et c'est pourquoi j'ai piqué une petite vidéo de Réal Massy, un youtubeur québécois, qui m'a un peu éclairé sur le sujet. Donc on va l'écouter tout de suite. Attention pour le petit accent. À tout de suite.
On pourrait bannir le plastique, bannir le pétrole, bannir l'industrie de la viande, devenir vegan et acheter des voitures électriques.
C'est vrai, on gagnerait un meilleur rendement énergétique, on réduirait énormément les déchets toxiques et ici on favoriserait beaucoup de nos écosystèmes.
Merci.
Mais réellement, ça serait pas aussi utopique que qu'est-ce que j'en viens de dire. Je veux dire, si les vices de l'homme existent toujours, qui embarquerait là-dedans? Comment veux-tu enlever le pétrole si c'est le moteur économique le plus grand de l'Arabie Saoudite? Comment veux-tu que la planète entière réduise sa consommation de viande alors que des millions de personnes n'ont même pas le luxe de choisir ce qu'ils mangent? Lorsqu'ils mangent. Comment tu veux mettre fin à des industries existantes alors que des milliards d'emplois sont concernés? On a tous été conditionnés par des systèmes qui prônent la production, la performance et l'argent. Alors comment est-ce que tu veux qu'on s'arrête un petit une seconde pour penser à... une paille de plastique? Certes, répartir ces changements sur la ligne du temps fera une différence, mais le temps manque et l'humain change fondamentalement pas.
Donc voilà, c'était un petit extrait d'une vidéo YouTube de Réal Massy qui parlait justement des désirs de l'homme qui était toujours d'avoir du confort pour lui, et donc il est forcément obligé de polluer pour avoir son confort.
Alors après, il faut quand même il faut quand même aussi préciser que ça c'est une particularité des Européens principalement, et des Américains aussi évidemment, et donc de beaucoup de pays dont le système économique est basé sur le capitalisme, et donc que c'est très récent entre guillemets, parce que c'est depuis l'industrialisation que ça fonctionne comme ça. Donc avant, oui, on n'avait pas de voiture, ou alors des voitures très peu, en fait, concrètement. On se déplaçait beaucoup à pied, comme on le disait tout à l'heure, avec des chevaux, par exemple. et c'est vrai que, oui, du coup, c'est très récent. Et en fait, on peut comprendre avec ça que, du coup, on n'est pas voué à polluer, et on n'est pas condamné à polluer, c'est notre mode de notre système actuel qui nous oblige entre guillemets, et donc maintenant actuellement on est entraîné dans ce système et ce cercle infernal. Ouais. C'est comme un cercle vicieux.
La surproduction,
en fait.
Toujours la consommation, et ouais. comme je pensais l'autre fois, comment des personnes peuvent sortir de ce système alors qu'il y en a beaucoup qui travaillent justement dans ce système. Mmh. On regarde le nombre d'emplois que génèrent les centres commerciaux, le nombre de personnes qui travaillent dans ce mode tous les jours de capitalisme, de production, de rendement, de d'emballage, encore une fois. Et donc comment c'est impossible que quand une personne vit au quotidien dans ce monde-là, c'est impossible d'en sortir.
Oui, c'est sûr que on est tellement entraîné. En fait, maintenant, tout dépend de notre société, et donc on est vraiment vraiment dépendant de ce mode de fonctionnement. Après, il y a des exceptions, bien sûr, parce que comme il y en a dans tous les cas, il y a des exceptions de personnes qui du jour au lendemain quittent tout et se mettent à vivre en autarcie en plantant leurs potagers, leurs arbres fruitiers. Et qui arrivent à vivre de ça, même si c'est des cas très rares. Mais par exemple, quand on pense à la permaculture, c'est un système d'agriculture, en gros, qui vise à favoriser les écosystèmes et à créer des écosystèmes et qui s'inspire, en fait, de la nature et de son fonctionnement. Mmh. Donc c'est une agriculture qui est... qui est
basé sur le respect de la terre, en fait.
Oui,
on peut
voilà.
dire ça comme ça.
Exactement, qui est basé sur oui, le respect des terres qu'on utilise. Et donc, par exemple, grâce à ça, c'est beaucoup plus facile de produire de quoi se nourrir et donc beaucoup plus productif que l'agriculture normale.
Donc, on arrive déjà à la fin de cette émission. Donc, on aurait pu parler de plein d'autres choses. On aurait pu parler de l'agriculture biologique. On aurait pu parler du fait que l'humain vit à crédit à partir du mois d'août.
28 juillet en 2019, exactement.
Ouais, donc encore plus tôt que ça. Merci, Margot. Et aussi, vous pouvez vous dire en écoutant cette émission que c'est mort, c'est cuit, que l'humain est voué à disparaître. Mais non. Il y a toujours une solution. Si l'humain a pu construire des monuments aussi énormes que la pyramide d'Égypte ou Notre-Dame de Paris, c'est que l'homme, il a une foi, il a une envie, et que avec cette envie, il peut aller loin, il peut aller haut, et donc il peut réussir à tout changer. Mais ce sera compliqué, il faudra travailler beaucoup dessus.
Oui, et surtout, il faudra toucher à notre confort personnel et il faudra une réelle envie de changer les choses, principalement de la part des politiques, voilà, donc de l'État, et nous aussi, faire attention à nos choix et aux choix qu'on fait dans la vie de tous les jours, donc que ce soit politique ou nos choix personnels. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on n'a plus tant de temps que ça pour changer les choses et on ne peut pas rester dans cette société qui est toujours basée sur la surproduction et qui a un impact qui est vraiment énorme sur les écosystèmes et sur la biodiversité et sur le dérèglement climatique. Et donc, c'est vraiment beaucoup trop. Et donc, on sait que la planète, elle ne va pas mourir, mais nos conditions de vie, elles vont se dégrader de plus en plus. Et donc, ça va être juste un effondrement qui va être lent, mais qui va sûrement arriver. Et si on ne change pas, notre mode de pensée.
Ouais. Donc, on vous mettra de toute façon dans le lien du podcast tout plein d'articles, tout plein de vidéos. Je vous en ai préparé quelques-unes pour vous éclairer sur le sujet et pour agir mieux pour la planète, parce que c'est quand même notre maison.
Exactement.
Et ben donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés avec Margot. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site rtvfm.net. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Comme tout le monde. C'était sur RTVFM. Et à bientôt.